Bienvenue, vous écoutez Chit Chat, le podcast confidence entre chattes qui parle de façon décomplexée d'amour, de sexe, de sentiments et de relations. Meilleur coup, ghosting, rupture amoureuse, charge mentale ou encore club libertin, entre deux verres de vin et trois de ginto, on vous dévoile nos conversations intimes les plus folles, celles qu'on partage habituellement entre 1h et 2h du matin. Chit Chat, c'est parti.
Est-ce que tu as l'impression que là, avec Speakeasy, on parle quand même beaucoup de santé mentale dans les médias dernièrement, Est-ce que tu trouves qu'il y a, on va vers un mieux en allant consulter, en prenant plus soin de notre santé mentale et en essayant d'apprendre à mieux nous connaître? Est-ce que c'est une bonne chose? Ou est-ce que finalement on déterre plein de trucs et... Parce que je sais pas, moi j'ai l'impression que tout le monde est un
c'est
peu
la
fucked
boîte
up.
De Pandore.
Ouais. Ouais, c'est ça, tu vois, genre t'ouvres tout et t'es genre oh là là, et
plus
tout le monde a des traumas.
Plus tout le monde est fucked up.
Tout le monde a des galères, des problèmes, enfin je. Je sais pas, je m'interroge vraiment là-dessus et j'ai envie de croire que c'est une bonne chose, hein, vraiment de s'intéresser à notre santé et d'aller creuser ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que plus on en parle finalement, plus aussi ça exacerbe un peu tous ces sujets.
Ouais. Ouais, c'est une bonne question. Il y a pas mal de gens qui me posent cette question. Notamment, je pense à un pote qui m'a dit, moi, j'ai envie d'aller voir un psy, mais j'ai trop peur
de ce que je vais trouver.
De ce que je vais trouver, de ce que j'ai déterré. Et surtout après, derrière, de tomber accro à ça, tu vois, de plus pouvoir m'en passer, de toujours se sentir obligé d'aller voir un psy pour aller bien ou pour fonctionner. Et je pense que ça, c'est un peu un mythe, tu vois. Je pense que déjà, le psy, il est pas du tout dans cette relation de dépendance émotionnelle ou thérapeutique. Justement, le but du psy, c'est que tu sois acteur de ta propre vie et qu'au bout d'un moment, bah, tu sois indépendant et que t'aies plus besoin de lui pour fonctionner de manière épanouissante. Et donc, je pense que c'est, au contraire, que c'est bien de bah d'aller voir un psy et d'aller déterrer ce qu'il y a à déterrer entre guillemets, même si ça fait peur, même si c'est douloureux, ça c'est sûr que la thérapie c'est vraiment c'est quand même cyclique, c'est pas du tout une progression linéaire. T'as des hauts, t'as des bas, t'as des bas qui peuvent être très bas, très douloureux, mais au final le but c'est de progresser et d'arriver à la fin à un état ouais d'épanouissement, de bien-être qui te satisfait, qui est aligné avec ce dont t'as envie, ce que tu veux, etc. Donc je pense que non, le fait d'aller voir un psy, ça va pas créer des névroses, créer des problèmes imaginaires. Après, par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense que comme la santé mentale est une thématique qui devient vraiment très à la mode et que les gens en ont conscience, il peut y avoir derrière des, pour appeler ça des dérives, entre guillemets, dans le discours ou dans la vision de certaines personnes qui vont, par exemple... un truc très à la mode, se dire HPI alors que pas forcément, tu vois.
S'auto-diagnostiquer,
exactement. Et entre guillemets, se créer des faux trucs parce que ça fait partie un peu d'un système où tu te crées une identité à travers ça, tu vois. Il y a beaucoup de stars qui se disent HPI, qui se disent maniaco-dépressif. On parle, j'ai lu le bouquin de Panayotis qui se décrit comme, qui a été diagnostiqué.
Oui, lui, il a une TDAH,
dépression. Dépression mélancolique, un truc comme ça.
Un truc apparemment qui revient tous les 8 ans ou je sais plus quoi.
Donc forcément, bah, tu vois, quelqu'un qui peut être fan de lui, il peut se dire, bah,
moi aussi, j'ai des
blues, du spleen, etc. Donc je suis comme ça. Enfin, donc forcément, l'autodiagnostic et le fait d'être influencé par cette personne peut créer, tu vois, ce genre de, on s'invente un peu des problèmes. Mais je pense que de manière globale, si on prend 90% des cas, les gens ont besoin et ont raison d'aller voir un psy, et les résultats, ils sont bénéfiques, tu vois.
Ouais, non, mais je suis très convaincue sur le sujet, totalement. Mais par contre, c'est vrai que faut aussi, c'est prouvé, je crois, il y a un effet rebond quand même après les premières consultations ou après les débuts d'une thérapie. Souvent, t'as un moins bien avant, après, d'aller mieux sur le long terme. Mais il y a quand même un truc de... Bah, tu déterres des choses et souvent, ça peut révéler des émotions assez inconfortables.
Ouais.
Et ça fait partie aussi du process de la thérapie où
il
faut être prêt à en passer par là. Mais sur le long terme, c'est du mieux.
Ouais, exactement, tu passes par plusieurs phases d'émotions. Un peu comme un deuil. Il y a eu une enquête qui avait comparé ça avec un peu le deuil. Alors, je sais plus de tête, mais tu passes par plein d'émotions différentes en fonction de la temporalité.
T'as le déni,
t'as la colère.
La tristesse, la négociation et après l'acceptation.
Ah ben voilà. Vous les connaissez mieux que moi. la thérapie, c'est un peu ça, tu vois. Genre au début, t'as un soulagement parce qu'en général, tu te fais une montagne de la thérapie et t'arrives et tu te dis, ah ouais, en fait, c'est juste ça, c'est cool, c'est chill. la personne, surtout si ça, enfin surtout si la personne elle te met à l'aise et que tu te sens bien avec elle, tu te dis bon bah ok, il suffit juste de parler comme si, enfin tu vois.
Donc, ouais, justement moi j'ai peur de ça, donc je suis peut-être un peu zinzin. Hein. j'ai envie que ça, tu vois, qu'il y ait des résultats, tu vois ce que je veux dire, justement.
Ouais.
De pas
toi
avoir
tu veux.
Ah moi je veux pas juste parler.
Toi t'es dans l'efficacité. Ah, genre, ouais.
Toi t'es là pour rentabiliser les 70 euros.
Non, mais je veux qu'il y ait, ouais, je veux qu'il y ait une petite, des petites révélations.
Mais est-ce que tu penses que, genre, en c'est une heure, on va régler?
Et non. Et bien sûr, je sais que non. Je sais que non, mais c'est comme si j'avais, en fait, oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire aussi. Désolée, je change complètement de sujet. C'est comme si j'ai un peu trop des grosses attentes. J'ai peur d'être déçue en y allant et de me dire, c'est pas forcément que l'argent. Mmh. De me dire juste, bon, bah voilà, j'ai fait 5 séances. Et en fait, bon, bah, j'ai l'impression que ça m'a fait du bien, on a parlé, la personne était agréable, on a eu un bon feeling, mais que j'ai pas eu des petites révélations. Et je pense que du coup, j'ai peur d'avoir un écart entre mes attentes et ce qui va vraiment se passer. Je pense que c'est ça qui me freine actuellement à dépenser ce temps et cet argent dans la dent.
Et au contraire, qu'est-ce qui te ferait du coup
pas oser? Tu vois, par exemple, quand quelqu'un me dit « Ouais, je suis allée voir cette psy, il y a eu des trucs de fou, etc. » Là, tout de suite, je me dis...
un petit...
Oh, aussi, j'aimerais bien... Ouais. Alors que c'est complètement... je sais que c'est pas très rationnel et je sais que ça peut pas forcément se passer comme ça. Je peux pas contrôler ce qui va se passer. Et puis, ça se trouve, il va se passer des très belles choses dont auxquelles je m'attends pas, et voilà. Mais ce qui me donne envie, c'est quand j'entends quelqu'un dire « Ah oh, ouais, mais c'est vrai, moi, ça a fait
la chouette. » D'avoir la recommandation, finalement, d'un proche. C'est ça aussi, je pense.
Ça me rassure un peu.
Qui est hyper rassurant.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'avais écrit un article, enfin une partie de newsletter là-dessus, où en gros justement je me posais la question de est-ce que la psychothérapie a forcément un effet waouh, ou doit avoir forcément un effet waouh sur les personnes, tu
vois. Ouais, c'est exactement ça.
Et je pense que la réponse, elle est non, tu vois. Mmh. Je pense que ça dépend vraiment de la personne, du stade de vie à laquelle elle va consulter, de ses attentes, et surtout de la problématique qu'elle apporte.
Tout à fait.
Parce qu'en fait, déjà, il faut savoir que les freins en général, qui te bloque pour aller voir une thérapie, il y a déjà une partie de ton problème pour lequel tu vas aller voir un psy se joue déjà là-dedans, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des psys, tu vois, qui vont, enfin, d'autres personnes qui pourraient te dire la même chose que toi, genre j'ai peur d'aller voir un psy, mais pour d'autres raisons. Ces raisons-là sont liées forcément aux problèmes intrinsèques qu'elles vont amener, tu vois. Et après, je pense effectivement que non, une thérapie, elle n'a pas forcément cet effet waouh de waouh, ça a changé ma vie, j'ai appris des trucs révolutionnaires. Déjà parce que, encore une fois, ça dépend du type de thérapie que tu vas voir. Et ça dépend aussi des attentes que tu mets là-dedans et de qui tu es. Moi, c'est vrai que j'ai eu la première thérapie que j'ai faite, j'ai eu un effet waouh exceptionnel, tu vois. Mais parce qu'en fait, il y avait tellement tout à déconstruire. Et tu vois, genre, comme ma psy m'a dit, j'avais tellement vécu à côté de mes pompes que forcément, le jour où le psy il arrive, il te dit, bah, en fait, garçon, tu fais n'importe quoi et tu te connais pas. Forcément, bah, tu peux avoir qu'un effet waouh quand tu prends conscience de ça, tu vois.
Et t'avais 25 ans, en plus.
Et j'avais 25 ans, donc j'étais jeune, tu vois, t'as encore plus cet effet, hein. Quand tu vis, voilà, par exemple, si j'étais allé à 40 ans, t'as quand même une meilleure connaissance de toi, bah, cet effet waouh, tu l'aurais pas eu. Et même, je pense que j'y serais pas allé pour cette raison-là, parce que ce travail-là, je l'aurais déjà fait, peut-être sous d'autres formes, tu vois. Donc, je pense que il faut pas se mettre la pression là-dessus. Et voilà, il faut juste y aller, et essayer de prendre un peu le maximum de ce que tu peux prendre, tu vois. Et après, c'est sûr que là, tu parlais de 5 séances. En 5 séances, c'est difficile d'avoir des résultats exceptionnels, tu vois.
Tu peux déjà avoir des choses, mais après, oui, je pense que pour aller plus en profondeur, ça demande un engagement, un investissement plus sur le long terme.
Et puis, tout dépend de la problématique, comme vous l'avez dit plusieurs fois.
Mais je pense aussi, c'est peut-être d'y aller avec une curiosité, tu vois. Sans trop d'a priori, se dire, bon, on verra bien. Et j'ai l'impression aussi que quand tu viens avec une problématique, au fil des séances, tu te rends compte que ta problématique initiale, c'est pas du tout celle sur laquelle tu vas bosser. Parce qu'il y a plein d'autres choses que t'as bien enfouies. Et en fait, ok, t'as amené ça comme sujet, mais en fait, on s'en bat les couilles. Ça, c'est un peu le truc de surface, mais il y a d'autres trucs en souterrain, et c'est ça qui nous intéresse.
Mais ça, je trouve ça super intéressant.
Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai été voir une psy il y a, je sais pas, 2 ans. Je suis venue avec un sujet. Et en fait, mais peut-être au bout de 3-4 séances, elle m'a dit, bon, voilà, tu vois, à la base, j'avais pas du tout pensé à ce truc. Et c'est au fil des séances où t'as la confiance du thérapeute, enfin, toi, t'es en confiance, où là, tu te sens prêt aussi à aborder ces sujets. Sinon, première séance, bah non, je te connais pas, je vais pas te livrer des trucs. C'est pour ça que c'est important de nouer une relation, en fait. Enfin,
c'est primordial.
Et c'est aussi sur la durée que ça peut se mettre en place.
Et le pire, c'est qu'en plus, moi-même, en tant que thérapeute,
peux pas régler le souci nutritionnel d'une personne au bout d'une, d'une séance. Donc, j'en ai totalement conscience de ça, et je pense que le jour où je le ferai, ça se trouve, en plus, ça va super bien se passer et tout. Mais après, c'est peut-être des histoires qu'on se raconte aussi à nous pour dire « Ouais, j'y vais pas ». Enfin, tu vois.
Peut-être que c'est juste pas le bon moment pour toi, c'est ça, et quand tu seras prête...
Et aussi, je pense qu'il y a le professionnel qui attend le bon moment, enfin qui attend que le patient soit prêt à entendre ce qu'il va dire.
Complètement,
tout à fait. Si t'arrives avec...
Et ça, c'est hyper important.
Ouais, c'est hyper important. Toi, t'es diététicienne, si derrière la séance, tu vois globalement ce qui cloche, mais que tu sens pas la personne prête à lui dire « Bah, en fait, tu manges n'importe comment ». Et tu vois, il faut y aller progressivement, donc tu vas lui faire passer des messages de manière subtile, en douceur, pour qu'au bout d'un moment tu puisses lui dire bah voilà, il faut qu'on fasse ça, ça, ça.
Tout à fait.
Et un psy, c'est pareil.
Et souvent, enfin, j'ai déjà entendu, je crois que c'est une psychiatre, psychologue qui avait dit ça dans une interview, et quelqu'un d'autre aussi, un thérapeute, le disait. Le psy disait mon objectif, c'est votre objectif. Mmh. En fait, si la personne elle vient en disant ah oui, je veux faire ça, genre pour toi par exemple, je veux perdre du poids, et toi tu vois que derrière, il y a d'autres choses qui sont liées, peut-être avec des troubles du comportement, nanana. Bon, là, c'est un peu différent parce que c'est lié à sa santé, donc ça peut la mettre en danger. Mais, admettons, sur un autre sujet, tu vas dire, ok, bon, bah, très bien, c'est ton objectif, et bah, je vais t'aider à résoudre cet objectif. Parce que tu vas pas lui dire, nanana, on va pas faire ça.
C'est pas ça, bien sûr.
C'est pas le bon moment pour elle pour l'entendre, donc ça ne marchera pas, quoi qu'il arrive.
Ouais.
Et je pense qu'avec les accompagnements psy, c'est pareil, en fait. Et c'est en cheminant que finalement ton objectif, bah, il va dériver vers autre chose qui sera plus efficace.
En fait, le rôle du psy, c'est d'échanger avec toi pour faire naître en toi des réflexions, et que toi-même, en fait, tu arrives à trouver les clés à tes réponses. Parce qu'en fait, le psy, il n'a pas les réponses à ta place, parce que le psy ne te connaît pas mieux que toi.
Ça, c'est une bonne question, parce que pareil, en tant que personne qui n'a jamais fait de la thérapie, j'ai bien conscience que... c'est pas le psy qui va te dire fais ci, fais ça, enfin, les réponses elles sont à l'intérieur de chacun de nous, mais c'est intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui peut te donner des pistes, tu vois,
mais parce il peut
que
le faire.
Quelqu'un qui rebondit que sur ce que tu dis et qui attend que ce soit toi qui amène les sujets, et j'ai déjà eu des retours, tu vois, de copines ou de potes qui disaient ouais c'était cool avec mon ou ma psy, mais bon j'ai l'impression que il ou elle attendait que je reviens de la conversation. Et moi, je pense qu'il me faudrait peut-être quelqu'un de plus...
Une approche plus directive.
Ouais, une approche plus directive ou quelque chose qui soit suggestif, où c'est moi qui mène quand même le truc, mais enfin les réponses viennent de moi, mais quelqu'un quand même qui me propose des choses. Et pas juste de l'écoute, quoi.
Ben ça, c'est hyper intéressant. Dans le questionnaire Speakeasy, je pense que ça, tu peux le remplir en disant « Moi, je veux pas un psy qui me fait « et moi, particulièrement, je sais que ça m'angoisserait aussi. J'ai besoin de quelqu'un qui échange avec, avec moi. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui kiffent, justement, d'avoir tout l'espace pour parler.
Exactement.
Sans quelqu'un qui rebondit plus que ça. C'est des
affinités... j'en connais, moi.
Après, tu vois ça, le coup du c'est un peu les clichés de la psychanalyse d'il y a une vingtaine ou trentaine d'années.
Ouais, mais on en entend encore. Enfin, moi, j'ai eu des échos aussi de potes qui sont tombés sur ce genre de personnes, peut-être un peu à l'ancienne.
Voilà, évidemment, il y a toujours des gens qui vont avoir un peu cette posture analytique où, justement, t'es davantage dans une écoute. Mais encore une fois, tu vois, genre, même l'écoute, c'est une écoute active, et c'est pas parce que la personne, elle ne parle pas qu'elle ne travaille pas, tu vois. Et c'est hyper... déjà, c'est une science pour moi et un savoir... incroyable de savoir et vraiment écouter une personne. Et après, il y a savoir écouter, il y a savoir condenser les informations, et après, les prioriser et partir de celles qui sont intéressantes, tu vois. Et bon, ça, c'est un autre sujet, mais voilà, je pense que globalement, maintenant, même ceux qui font de la psychanalyse, ils ont une approche moderne, parce que justement, on a trop souffert de la psychanalyse freudienne, où t'es allongé sur un divan, où tu parles pas, où le mec il prend des notes, où il y a des blancs, enfin, où c'est un peu anxiogène. Et justement, aujourd'hui, il y a une grande majorité des professionnels qui sont hyper dans l'échange, qui vont rebondir, qui vont pas laisser le patient suspendu à des mots ou à des trucs. Donc pour moi, un bon psy, il s'adapte à la personne. S'il voit que la personne a besoin de vider son sac et de parler, il va laisser parler et rebondir quand il y a besoin de rebondir. Quand tu vois qu'une personne elle a justement besoin d'être un peu leadée et d'avoir un fil rouge, eh ben il est là pour poser les questions comme un entretien ou un podcast, tu vois, où tu vas un peu mener ton invité, c'est un peu pareil, je trouve. En fonction de l'invité, tu vas poser plus ou moins de questions, tu t'adaptes.
Est-ce qu'une thérapie, par rapport à la santé mentale et le couple, je sais qu'on en a déjà un peu parlé aussi dans d'autres épisodes, mais c'est-à-dire que, est-ce que quand on est en couple, on se doit, entre guillemets, de peut-être prendre soin de notre santé mentale, parce qu'en fait, l'autre peut devenir soit un peu notre psy, soit notre, un peu notre décharge. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu un truc de santé mentale dans le couple, et je sais qu'on en avait déjà parlé, et il y en a qui, justement, qui disaient, bah oui, non, mais justement, le couple, on est là pour se soutenir, pour échanger, c'est normal, on est un peu le petit thérapeute de vie de l'un et l'autre. Tandis que il y a une autre vision qui s'oppose en disant, bah non, justement, chacun s'occupe de sa santé mentale et le couple n'est pas forcément un lieu où il y a ça. Okay. Bon, je sais pas si c'est très clair ma question.
Si, si.
Si, si, c'est super clair. Bah alors moi, mon avis personnel, c'est que... Déjà, je pense que pour être en couple, il faut que ta santé mentale soit une priorité pour toi. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, tu peux pas aimer quelqu'un, être bien avec quelqu'un, si t'es pas bien avec toi-même. Donc, en gros, déjà, si tu fais pas un travail de santé mentale perso individuel, c'est difficile d'être dans une relation, on va dire, amoureuse saine et viable. Donc ça, c'est le premier point. Et après, je pense qu'effectivement, la santé mentale, je pense que c'est quelque chose de très intime, mais qui peut se partager. Voilà, on a tous, je pense, notre jardin secret ou des choses qu'on n'a pas, on n'est pas dans l'obligation, dans le besoin de partager. Mais je pense effectivement que c'est une dynamique qui s'entretient à deux et qui se tire vers le haut, quoi. Et comme tu le disais, j'aimais bien l'expression de, on est un peu le thérapeute au quotidien de chacun. Je pense qu'effectivement, c'est vrai, tu vois, quand ton partenaire, il est pas bien, qu'il a un coup de mou, qu'il a besoin d'être réconforté, d'être soutenu, d'être rassuré, bah, c'est ton rôle à toi de conjoint de le faire, tu vois. Et donc ça, bah, ça joue sur sa santé mentale. Donc forcément, je pense qu'être en couple te donne, t'as des devoirs et des obligations, tu vois. Et je pense que le fait de prendre soin de l'autre en fait partie. Et donc forcément, quand tu prends soin de l'autre, t'as un acteur de sa santé mentale. Et donc ça me paraît difficile de cloisonner et de se dire genre...
C'est ça, c'est super dur.
Ouais.
Et en même temps, le couple est aussi le lieu... Enfin, moi, c'est mon avis personnel, là, ce que je dis. Le couple, c'est un peu... le lieu de où il y a un peu les traumas et les merdes qui ressortent, cool, tu vois,
ouais.
Je trouve. À la fois, c'est un truc hyper sécurisant, le couple, et puis quand il y a de l'amour, etc., c'est génial, c'est magnifique, c'est hyper puissant et tout. Mais à la fois, je trouve que c'est quand même un lieu d'expression un peu des traumas de chacun qui se mélangent, qui se répondent et tout. Donc, c'est pas si facile de se dire, voilà, notre santé mentale, on la gère chacun avec notre psy, on mêle pas trop le truc. Ouais, je trouve que c'est pas si simple que ça, je trouve.
Ouais, totalement. Totalement. Après, je pense que, justement, le couple, c'est un cadre où chacun peut arriver et amener des choses pour justement, bah, soit s'en décharger, pour avoir la vie de l'autre, soit pour juste les partager parce qu'il a besoin d'extérioriser. En fait, tant que, y a pas vraiment de règles, je pense, si ce n'est celle que tu te fixes avec ton propre partenaire, quoi. Et donc après, une fois que bah, les règles elles conviennent aux deux, chacun est libre d'amener, de commenter, de proposer des solutions, d'accompagner, d'aider, enfin ce que tu veux, pour le bien-être de l'autre. Et effectivement, bah, parfois ça donne des situations où tu vas partager des traumas, des angoisses, etc., qui peuvent être parfois des situations de disputes potentielles ou d'éloignement, mais... Comme une thérapie, ça peut être difficile au début, mais derrière, en général, c'est bénéfique, salvateur quand t'arrives à communiquer, parce que, bah, en général, tu mets le doigt sur un dysfonctionnement au sein de ton couple, que ce soit en termes de communication, de vision, de tout, etc. Et encore une fois, c'est encore le plaisir immédiat versus plaisir long-termiste, où ça te coûte au début de le dire, mais après, les bénéfices sont incroyables, tu vois. Ça peut même sauver les couples, relancer les dynamiques, juste, t'avais peur d'en parler, tu savais pas comment l'autre allait le prendre. Au final, tu te lances, et après, bah, ça te permet de creuser, de
ouais, même s'il y a une période où tu déterres un peu les merdes.
Faut accepter de t'en avoir parlé, les mains dans la merde pour après,
Là, j'aime bien ça. Je trouve que c'est, comme image, ça rassure.
Ça, j'aime bien.
Très poétique.
L'image des mains dans la merde.
Pas forcément l'image, mais j'aime bien. Je trouve que c'est rassurant de se dire, voilà.
Ouais, ça peut être la merde, mais après, ce sera bien. Couple, elle est pas, c'est comme une thérapie ou comme.
C'est clair, c'est pas linéaire comme ça.
C'est pas linéaire. T'as des hauts, t'as des bas, et encore heureusement, sinon ça serait ennuyant, tu vois.
C'est clair.
Toujours plat ou. Ça peut pas être comme ça, forcément, parce que c'est impossible. Et si c'était toujours plat, bah ouais, ça serait ennuyé, tu vois. Et puis les bas, ça te permet de remonter plus haut, ça te permet d'évoluer, de mieux te comprendre, donc.
On peut finir là-dessus, c'est trop plutôt cool, une belle image
ouais.
pour le couple. Et si, moi j'ai juste une dernière question, mais très courte. Est-ce qu'on a des chiffres sur les personnes qui consultent des psys, hommes versus femmes? C'est quoi la part?
Alors déjà, par rapport à Speakeasy, on est à ratio de 85% de femmes pour 15% de mecs.
C'était un peu ce que j'avais en tête, mais voilà. Bon, ça confirme.
Mais sachant que quand j'ai commencé, donc il y a le service, j'ai lancé il y a 2 ans et demi, on était sur du 98%, tu vois. Donc, t'as quand même
ça a évolué.
Une progression des hommes qui a noté et que j'encourage du coup à les consulter et à continuer comme ça. Et après, j'ai plus trop de chiffres en tête. Je pense que c'est moins marqué, mais je pense que t'as, enfin, c'est même sûr, t'as une majorité de femmes qui consultent.
Ouais, c'est quand même bien, peut-être 65.
Ouais, c'est quand même assez écrasant. Hein. C'est assez écrasant.
Donc, c'est une affaire de femmes, du coup, la santé mentale?
C'est pas une affaire de femmes, mais c'est vrai que les femmes, ont cette capacité à être davantage lucides sur leur état et du coup ont peut-être davantage aussi de courage. Enfin, je pense que ça c'est un débat hyper compliqué.
Ouais.
Je pense qu'il y a une grande partie de masculinité, tu vois, de ce que la société attend d'un homme, qu'il n'ait pas ses émotions, qu'il ne pleure pas, qu'il gère lui-même ses problèmes. Donc en fait, la construction masculine dans la société empêche les hommes d'aller voir un psy pour moi.
Et la question du soin aussi, c'est quelque chose qu'on aux petites filles.
Exactement.
Et pas du tout aux petits garçons. Donc,
un homme doit être fort et une femme doit être réconfortante et donc prendre soin de l'autre. Et donc pour prendre soin de l'autre, évidemment, il faut qu'elle-même elle soit bien, donc elle va avoir un psy. Mais au-delà de ça, ouais, je pense que les femmes, elles ont davantage conscience de leurs limites. Elles sont plus lucides justement sur le... Elles ont un regard plus lucide. Quand les hommes, ils ont plus une capacité, je pense, à être dans le déni. Et moi-même, j'ai été dans cette cas de figure et je vois les hommes qu'on accompagne. En fait, un homme, il va consulter quand vraiment il est au pied du mur. C'est-à-dire que vraiment, il souffre, il en peut plus.
Il a plus le choix.
Il a plus le choix. C'est vraiment sa porte de sortie, c'est le psy, sinon il se suicide ou il est en dépression, burn-out, ce que tu veux. Alors qu'une femme, elle est
anticipé un peu.
Ouais, elle est davantage dans un comportement proactif de se dire, là, je sais qu'il y a des trucs qui vont pas, que j'ai jamais vraiment réglé, vas-y, là, c'est le moment d'y aller, j'y vais, tu vois. Et ça, c'est tout à votre honneur et...
Ouais, bah j'espère que les mecs vont de plus en plus aller consulter des psys parce que
je pense que ça va être le cas. Je pense que ça va être le cas et après voilà, il faut pas faire des généralités, il y a des nanas qui attendent vraiment d'être très
bien réglées, bien sûr,
comme des mecs qui sont hyper proactifs.
Oui, on parle de façon,
mais de manière globale après je pense que sur les stats, tu vois, ça dépend aussi beaucoup des tranches d'âge. Je sais que par exemple les 15-24, c'est la population qui consulte le plus. Je crois qu'il y a plus de 70% des 18-24 ans sur les
deux ou trois années qui ont consulté une fois. Ça, c'est notamment depuis le Covid, non?
Ou vraiment, notamment, ouais, c'est pour ça, depuis, je te dis 2-3 ans, donc depuis post-Covid, qui ont consulté. Et par contre, si tu vas dans la catégorie des seniors, c'est infime, tu vois. Après, je pense que ça dépend aussi de la sociologie, tu vois, les classes CSP, CSP+, sont beaucoup plus ancrées dans leur mode de pensée, leur culture, d'aller consulter. C'est pour ça que, par exemple, Speakeasy, nous, on marche pas du tout dans les zones géographiques, on va dire, restreintes, hors agglomération, tu vois.
Ouais, c'est très urbain.
C'est très urbain, ouais. On marche beaucoup sur Paris, sur Lyon, Marseille, enfin les grandes villes. Les gens, c'est des urbains, des jeunes entre 18 et 30 ans, notamment des femmes. Mais tu vois, il y a un espèce de bagage culturel, socio-économique derrière. Des fils de paysans qui sont, et je critique pas, hein, qui sont au fin fond de la campagne.
Et puis déjà, ils ont peut-être pas du tout accès, en plus, pas de psy, ces zones-là.
Déjà, il n'y a pas accès au psy.
Et ça fait pas partie.
Mais surtout, ça fait partie de leur habitude, de leur culture.
De leur éducation aussi.
De leur éducation, ouais. Parce que maintenant, avec le visio, tu vois, tu peux consulter un peu de n'importe où, donc ça.
Oui.
Même si t'as pas d'offre thérapeutique intéressante, tu peux toujours t'en sortir, mais c'est juste pas culturel.
C'est pas connu aussi, peut-être dans certains milieux. Il y a certaines familles ou certains milieux où personne n'est jamais allé voir un psy, à part énormes grosses problématiques.
Ou alors, du coup, si t'es allé voir un psy, c'est considéré comme tes zinziflex, des gros problèmes. Non, mais c'est vrai. Dans certains milieux, c'est vraiment ça. C'est genre, si tu vas voir un psy, c'est que, déconnes vraiment, t'es malade mental, ou tu vois, il y a des trucs très...
Des gros stéréotypes, quoi. Des gros stéréotypes de pensée limitante encore très ancrés, ça après c'est aux médias, aux acteurs, à la presse, au cinéma de changer ce regard là, tu vois.
Et je trouve que là-dessus on va vers un mieux quand même, parce qu'on en parle de plus en plus, donc il y a moins de tabous autour des questions de santé mentale, et c'est trop bien.
Carrément. Il y a encore beaucoup de taf à faire, mais c'est de mieux en mieux.
Trop cool. Trop bien, merci beaucoup, Clément. Désolé d'avoir pris un peu ton temps, d'avoir...
Non, mais ça va, il me restait encore 5 minutes, mon père. Ah,
bon, bah, écoute, on peut trinquer, alors.
On trinque ?
Ouais, tu trinques à vide.
Merci d'avoir écouté Chit Chat. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos amis pendant l'apéro, à nous mettre 5 étoiles ou à nous laisser un petit commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir. On vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.